Vous allez entrer tout à l'heure dans le musée municipal de Noirmoutier, un musée en pleine rénovation, installé dans un bâtiment vénérable. Certainement aimeriez-vous connaître un peu l'histoire de ce bâtiment pour mieux en apprécier la visite. Voici, pour situer le cadre historique, une belle carte provenant des archives du génie à Vincennes. Bien qu'elle soit datée de 1812, elle représente l'aspect de l'île au début du XVIIIe siècle. Longue, très étroite, le gouas bien indiqué, les rades profondes et abritées comme celles des belles eaux entre la fosse et Fromentine et celle du bois de la chaise, tout ceci se lit facilement. Nous sommes dans l'île et nous approchons de la ville. Dès la Guérinière, les silhouettes du château et de l'église qui guident depuis le gouas se précisent. Sur ce plan de 1752, provenant des archives nationales, on a figuré et identifié les principaux bâtiments visibles. Le donjon du château se voit de face. Les tourelles surmontées d'un oriflamme. L'église avait ce haut clocher effilé qui, après sa destruction, fut remplacé par la grosse tour que nous connaissons. Approchons-nous encore. Nous sommes à l'entrée de la ville en 1768. Ce très beau plan d'une collection particulière est en fait la première carte postale de la ville. Elle est d'une étonnante précision. Attachons-nous plus particulièrement au château. Il surplombe véritablement à la fois l'église, la ville et le port qui se trouvait primitivement à l'emplacement de la place numérotée 12. L'examen dans le détail montre que, contrairement à ce que laissait croire la vue précédente, les deux tourelles du donjon, surmontées d'un oriflamme, ne sont pas sur le même plan. Deux fenêtres seulement sont visibles au dernier étage du donjon. En 1768, les créneaux existaient encore. Remarquons entre le donjon et l'église l'énorme barbacane destinée à protéger l'entrée principale. Elle vient presque à la porte de l'église. On la devine en ruine. Nous sommes maintenant dans la cour du château, juste avant d'entrer dans le donjon. Il est facile d'en imaginer l'aspect primitif, sans les ouvertures percées au premier et au deuxième étage par les autorités militaires vers 1830. Quel contraste entre ces ouvertures béantes et les fenêtres ornées du dernier étage. La tourelle de droite fut privée de sa toiture vers 1520, quand on monta de l'artillerie sur le sommet du donjon. La photo suivante, presque identique à la précédente, semble rapetisser le donjon. Mais est-il vraiment petit? Il a été rapetissé parce que le fossé qui se trouvait à son pied a été comblé, diminuant ainsi sa hauteur de plusieurs mètres. Il a actuellement 18 mètres de haut. Dans ce merveilleux plan de 1703, trouvé à la bibliothèque de la Marine à Vincennes, l'ingénieur Mas, qui l'a dressé, a figuré les travaux nécessaires au renforcement du château. Bien peu furent réalisés. On ne refit pas les deux tours à droite, détruites par les Hollandais en 1674. Ce plan mériterait un examen de détail. Notons seulement que le donjon et sa petite enceinte extérieure furent construits vers 1180 par Pierre de la Garnache, le baron le plus puissant du Bas-Poitou après le vicomte de Thouars. Son plan est rectangulaire, renforcé aux quatre angles par une tour, selon la mode de cette époque, comme aux deux donjons de Niort, à ceux de Pouzauges, Tiffauges et Châteaumur. L'orientation du donjon est presque identique à celle de l'église, ce qui laisserait supposer qu'il a été bâti à l'emplacement exact de la forteresse édifiée par l'abbaye de Noirmoutier en 830. L'entrée principale était à l'origine sûrement à l'ouest, c'est-à-dire vers le bas du plan. Au XVe siècle, quand on édifia en pierre la grande enceinte, on transporta l'entrée à l'est, juste en face de l'église. Les fossés communiquaient avec le port et s'emplissaient facilement d'eau de mer. Le plan suivant, provenant des archives du génie, montre le détail du plan du donjon. On voit que chaque niveau est divisé en deux parties égales par un gros mur de refend percé d'une seule porte. Remarquons qu'en 1862, les créneaux du donjon n'avaient pas encore disparu. De la même époque et de la même origine, voici la vue et le plan des deux bâtiments de la cour du château. Ils servaient en 1861 de logement au commandant de la place, au concierge et aux gardes de l'artillerie. Les voici tels qu'ils sont aujourd'hui. Ils abritent la bibliothèque municipale, le bureau et les archives des amis Noirmoutier, les réserves du musée. Le logis du gouverneur, à gauche, couvert d'ardoises, a, dit-on, été construit par Jos Hersfeld, gouverneur de l'île à la fin du XVIIe siècle. Nous le croyons un peu plus ancien. Le plan en était très simple, trois ou quatre grandes pièces à chaque niveau, sans couloir de communication. À la Révolution, pendant quelques années, le logis du gouverneur servit de maison commune à la municipalité. Du haut du donjon, la vue sur la cour intérieure, sur la basse-cour, comme on l'appelait au Moyen-Âge, donne une impression de vide. Mais il faut l'imaginer grouillant de monde quand l'ennemi menaçait l'île. C'était la partie réservée à la population en cas de danger. On y amassait en hâte les biens les plus précieux, les vivres, les animaux. Les habitants l'entretenaient à leurs frais et devaient y faire le guet. En 1385, 1459, 1524 et 1674, date des sièges les plus fameux, la même scène se renouvela. Anglais et Espagnols échouèrent dans leurs tentatives, les Hollandais réussirent et démantelèrent en partie la place. Près du seul puits du château, remarquez deux des quatre canons entrés récemment dans les collections du musée, ils datent du XVIIIe siècle. La photo suivante montre à gauche le Châtelet. À la place de l'escalier qui descend des remparts se trouvait la grande porte charretière qui permettait d'entrer dans la basse-cour. Elle attend sa restauration. Les grands arcs dans les remparts sont des réfections du XIXe siècle, faites à l'endroit d'effondrement des vieilles murailles. Le XIXe siècle n'a pas eu que des initiatives heureuses. Ainsi, c'était Chauguette du XVe siècle, dont le mur ouest de la grande enceinte a été amputé de sa toiture conique. Sur le mur est, au milieu à peu près, se dresse, imposant, le châtelet dont nous venons de parler. Il date de 1430 environ. La différence de construction avec la tour massive dans son prolongement est très nette. Ce châtelet constituait à lui seul un ouvrage difficile à prendre. Le revoici sous une autre perspective, vue du nord. Le grand pont qui franchissait les fossés et qui est si souvent cité dans les textes anciens et disparus, tout comme la barbacane de l'autre côté des fossés. De face, avec ses tours découronnées, son mur aveugle, percé seulement de trois archères, il paraît inutile et néanmoins hautain. Entrons maintenant dans le château, et par l'endroit le moins agréable. La photo est noire, à peine un rayon de soleil. À gauche, un trou encore plus noir. C'est l'intérieur d'une tour qu'au XVIe siècle, on appelait la prison noire. Et le trou noir est l'entrée du passage par où l'on introduisait les prisonniers. Cette tour date au moins du XIIe siècle. Elle s'effondra en partie il y a quelques années, ce qui permit sa redécouverte. Vous pourrez y jeter un coup d'œil tout à l'heure en sortant du donjon. Quand vous quitterez la pièce où vous vous trouvez en ce moment, et qui fut elle aussi une prison, vous passerez par cette porte, ouverte probablement au XVIe siècle. Elle débouche dans une petite cour où se trouvent quelques sarcophages du haut Moyen-Âge, trouvés à Saint-Hilaire, près du Vieil, où les amis Noirmoutier ont fait des fouilles. Vous verrez aussi cette belle croix de 1595, dite croix de sort, qui se dressait à mi-chemin de l'Herbaudière, derrière le village de Luzet. Le photographe n'a pas pu résister au plaisir de vous la présenter à contre-jour.